France Inter.
Pour moi, le populaire ne se confond pas avec les classes populaires. L'identité collective des classes populaires a été en partie fabriquée par les dominants et inversement, les formes de résistance développées au cours du temps par ceux d'en bas ont joué un rôle majeur dans les bouleversements de notre histoire commune. Appréhendé sous cet angle, le peuple français désigne l'ensemble des individus qui ont été liés entre eux parce qu'ils ont été placés sous la dépendance de ce pouvoir souverain, d'abord comme sujet, puis comme citoyen. Gérard Noiriel est notre invité à l'occasion de la publication de son histoire passionnante de France intitulée « Une histoire populaire de la France ». Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi, parce que ça vous permettra de danser dessus, on va commencer en écoutant Rachida, Douce France.
Il revient à ma mémoire des souvenirs farinés. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois.
Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. La joie ou la douleur,
j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge, j'ai mon bonheur,
mon bonheur.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, dans mon cœur. Douce France,
Elle n'a pas toujours été douce, votre vie, Gérard Noiriel. Vous qui êtes aujourd'hui un professeur respecté, admiré, auteur de livres importants, vous qui avez contribué à faire en sorte que des générations d'étudiants deviennent eux-mêmes historiens, vous étiez un mauvais élève, voire un élève récalcitrant. Pourquoi ?
Je dirais plutôt récalcitrant que mauvais élève, mais c'est vrai que... Disons que j'étais hanté par ce que je retrouvais régulièrement sur mes bulletins scolaires, c'était toujours écrit « élève agité ». Agité. C'est pour ça que je suis devenu agitateur par la suite. Mais je dirais que voilà, c'était, il a fallu longtemps pour que j'analyse tout ça, mais c'était aussi bon lié à l'histoire de ma famille avec un père violent, etc. Donc j'avais connu quand même et mes frères puisque j'étais l'aîné et mes sœurs aussi, j'étais l'aîné de famille de 7 enfants. Donc ces difficultés familiales, oui, c'était quelque chose qui après, voilà, marque, je dirais, et pour moi l'émancipation, voilà, c'est la recherche, l'écriture, tout ça, ça a été des moyens de construire une émancipation.
Il y avait des livres chez vos parents ?
Des livres, non, c'était pas un univers où il y avait des livres, même pour faire ses devoirs. Enfin, c'était extrêmement compliqué de trouver un coin de table ou d'avoir un peu de silence. Voilà, ce sont des choses qui marquent et enfin qui sont assez banales dans les classes populaires, donc que j'ai vécu. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que par rapport à mes frères, moi j'ai eu la chance que ma marraine, qui était à l'époque apprentie institutrice, m'a appris à lire très tôt. Donc avant même d'entrer à l'école primaire, et moi je suis convaincu que quand on a un démarrage comme ça positif par le fait, on est donc valorisé scolairement. C'était la contradiction pour moi. J'étais assez valorisé dans mes résultats et dévalorisé dans mes comportements. Mais du coup, voilà, on a un rapport quand même positif au savoir, à l'école, et ça a été décisif pour moi par la suite.
Donc vous avez été mis à la porte de l'école, mais vous êtes revenu quand même à l'intérieur du système scolaire en devenant vous-même instituteur.
Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire que ça me fait toujours penser à une chanson de Bernard Lavilliers, j'ai failli vous la proposer aussi, mais on a cherché toutes les combines pour échapper aux grandes usines. Quand je dis ça, ça choque beaucoup, surtout dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui, mais moi c'était un peu ça mon rapport à l'école, hein. C'était éviter d'entrer à l'usine, quoi. Donc il y avait une possibilité, puisque moi, comme j'étais d'un milieu populaire, j'ai pas eu le droit d'aller au lycée. À la fin du cours moyen, donc, on orientait les enfants des classes populaires, quel que soit leur résultat scolaire, vers des filières courtes. Donc, moi, j'étais orienté vers un CEG, Collège d'enseignement général, et là, on avait le droit d'aller jusqu'en troisième, et voilà, on s'arrêtait là, sauf, il y avait cette possibilité qui était de passer le concours d'entrée à l'école normale d'instituteur, ce que j'ai fait, donc, ça m'a permis de prolonger, et puis après... était en terminale en 68, donc c'était même si c'était dans les Vosges, c'était pas un grand foyer subversif, mais quand même. Donc j'ai pas voulu mettre de blouse pour passer mon examen final, donc on me l'a refusé, donc j'ai démissionné, enfin il y a eu voilà, et j'ai recommencé après à zéro puisque j'étais de nouveau sorti de l'éducation nationale et j'y suis rentré après par la grande porte, on pourrait dire, quand j'ai passé l'agrégation d'histoire. Bon voilà, une nouvelle époque a commencé, mais voilà,
c'était quand même le parcours. Vous êtes devenu syndicaliste.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans mon milieu n'était pas du tout politisé. Dans ma famille, la politique, ça n'existait pas. Et puis, quand j'étais élève à l'école normale d'instituteur, là non plus. Hein, c'était vraiment... Et c'est seulement quand je suis arrivé à Nancy, donc à la faculté de lettres, que là, effectivement, j'ai découvert et la connexion s'est faite. C'est-à-dire que les dispositions que j'avais en moi, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, pour la révolte, j'ai pu les traduire dans un langage. C'est pour ça que je suis devenu marxiste. Et après, j'ai réfléchi à tout ça, mais j'étais fasciné par les discours violents. C'est-à-dire la violence physique se transportait dans le langage. Et voilà, moi, j'étais pour la dictature du prolétariat, enfin, des choses de cette époque-là. Mais ça a été, voilà, c'est des étapes dans une émancipation qui a duré, je dirais, qui dure encore par le fait. Ça a été très important pour moi, ce passage, effectivement, par le syndicalisme à l'UNEF. Et puis après, j'ai été à l'UEC, donc militant communiste. J'ai fini par être exclu aussi du Parti communiste. Bref, enfin voilà, quoi.
En tout cas, cette expérience et cet itinéraire vous ont permis de vous construire un rapport à l'histoire qui vous a conduit à faire une histoire objective, fondée sur des recherches approfondies, mais aussi sur une mise en perspective et une vision particulière, et qui est assez rare en France, c'est-à-dire que c'est du point de vue des dominés que vous tentez de comprendre ce qu'on appelle le récit national, et non pas du côté et dans la lumière des dominants.
Oui, c'est vrai, c'est pour ça que dans l'introduction, je donne quelques éléments sur mon itinéraire pour dire attention, tous les historiens ont un point de vue aussi, donc l'histoire qu'ils écrivent, elle correspond à des, comme vous le disiez, à des instruments scientifiques, etc., qu'on peut dire objectif, mais malgré tout, il y a un point de vue. Si on s'intéresse plutôt aux classes populaires ou plutôt aux élites, etc., c'est pas un hasard. Et donc, c'est vrai que moi, le regard que j'ai porté sur l'histoire est marqué par ma propre trajectoire, mais aussi dans la volonté de prendre une distance. Hein. Ça, on y reviendra peut-être, mais pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'appréhende l'histoire de France à partir, je dirais, plutôt des vaincus de l'histoire, mais aussi pour comprendre les processus de domination. C'est plus une histoire de la domination que des dominés. Parce que voilà, il y a cette dialectique, c'est ce que vous disiez au début, dans la citation que vous avez faite. Pour moi, c'est ça l'intérêt. C'est cette dialectique-là, c'est ces liens qui nous attache aussi à des gens qui sont différents, qui peuvent avoir plus de richesse ou de capital culturel, etc., mais qui sont, voilà, qui entraînent un processus qui fait le progrès aussi de l'histoire.
Oui, mais vous nous expliquez, Gérard Noiriel, tout au long de ces 800 pages, que la manière qu'ont les dominants de pouvoir faire pression sur ce qu'on appelle les dominés, les vaincus de l'histoire, comme vous venez de le dire, et permanente durant la longue durée, et qu'il est très compliqué, c'est pour ça que votre perspective est absolument passionnante, il est très compliqué de trouver les écheveaux de ces fils dont on est plus ou moins conscient. Les dominés finalement fabrique notre vision de l'histoire nationale.
Voilà,
Bien
malgré nous, et c'est ça qui rend les choses compliquées, c'est que il y a un schéma global qu'on pourrait dire dominant-dominé, mais ce que je montre, c'est qu'à l'intérieur des classes populaires, il y a aussi des formes de domination. La domination masculine, comme par exemple, c'est un élément qui entre en ligne de compte. La question de l'immigration sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est aussi des formes de domination souvent à l'intérieur des classes populaires, et y compris chez les élites, il y a aussi des dominations internes, etc. Donc, quand on essaye de relier tout ça, vous voyez, c'est très compliqué. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, en donnant souvent des exemples très concrets, parce que je ne voulais pas faire un livre abstrait, théorique, etc.
Alors prenons Jeanne d'Arc, puisque c'est comme ça que s'inaugure votre grand récit.
Oui.
Jeanne d'Arc, qui est récupérée en ce moment même, aussi bien par l'extrême droite que par les républicains les plus exaltés. Jeanne d'Arc a droit à vos honneurs, Gérard Noiriel, parce que finalement, c'est une individualité forte qui s'est portée au secours du roi, mue par un désir d'amour de la France.
Voilà,
de la douce France, comme dirait Rachida.
De la conception qu'elle se faisait de la France, parce que voilà, c'était une France qui n'était pas forcément celle d'aujourd'hui. On est encore dans une société qui est féodale, quelque part. Donc elle habite à Don Rémy, donc dans les Vosges. Moi, je viens aussi de cette origine, de cette région-là, comme Rachida, d'ailleurs, hein, puisqu'il était aussi vosgien. Enfin, il passait une partie de son enfance dans les Vosges. Et voilà, c'est une région rurale qui est à la frontière, hein, entre aussi l'Empire germanique, etc. Donc, elle a un sentiment, on pourrait dire, d'appartenance au royaume de France, qui est lié à cette position géographique. Et donc, elle s'engage, effectivement. Alors, c'est pas la pauvre bergère comme on l'a décrite, mais malgré tout...
Vous dites qu'elle appartenait à une famille assez aisée.
Oui, assez aisée, de laboureurs. Et donc, son père avait déjà un peu un rôle de leader dans la commune, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'époque, c'est que... elle endosse par le fait un rôle qui était réservé aux hommes aussi, et donc elle sera d'ailleurs brûlée comme sorcière en partie à cause de ça. Et aussi la leçon qu'on peut tirer, c'est donc elle se dévoue au service du roi, et finalement elle est victime, quoi. Donc pour moi c'est un symbole aussi de ce qui arrive aux classes populaires quand ils vont soutenir les dominants, quoi. Enfin, c'est pour moi la leçon qu'on peut tirer de l'épopée de Jeanne d'Arc, c'est que quelque part, et bien même le roi à la fin l'a trahi, il ne l'a pas soutenue quand elle a été après condamnée, brûlée, etc. Bon, il y a donc là une épopée que moi je relis aussi à un contexte plus large, qui est la formation de l'État français. Parce qu'au-delà de Jeanne d'Arc, je dirais que les personnalités dans l'histoire, ils jouent un rôle quand ils sont dans un contexte qui leur permet de jouer ce rôle. Et donc là, on est quand même, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé par cette période-là, au début de l'État royal, c'est-à-dire c'est grâce en partie à Jeanne d'Arc que l'impôt, parce que l'impôt c'est fondamental, l'impôt régulier se met en place en France et donc alimente les caisses de l'État royal. Et donc à partir de ce moment-là, on a vraiment un État qui se fixe et qui existe encore aujourd'hui. Donc on a vraiment un moment fondateur dans notre histoire de France.
Alors vous avez le talent, Gérard Noiriel, à l'intérieur de votre manière de faire de l'histoire, de rendre les choses tellement contemporaines qu'on en revient à se dire que notre propre présent ne peut se comprendre que par l'élucidation de certaines pages de notre propre passé. Et là, je vais prendre un autre exemple qui constitue un cœur incandescent de votre histoire. C'est la période de la Révolution française. On sait qu'aujourd'hui, cette période de la Révolution française est très commentée par les femmes et les hommes politiques, qu'elle peut réactualiser et mettre en perspective certains débats nationaux. On sait très bien que cette histoire de la Révolution française a été ô combien décryptée, dépliée, que ça soit depuis Michelet jusqu'à la lecture plus marxiste d'Albert Soboul il y a une quarantaine d'années. Mais vous nous donnez une autre saveur et une autre contemporanéité de cette Révolution française. Et vous dites aussi qu'on a tendance à la noircir dans certaines pages. Pourquoi ?
Oui, voilà. Alors là, je dois préciser que je suis moi-même tributaire de mes collègues historiens qui sont des spécialistes de ces questions-là. Mais quand on écrit une somme comme ça, comme une histoire de France, on est obligé de sélectionner, je dirais, des exemples ou des problèmes en fonction de sa démonstration globale. Donc toujours, moi, j'avais l'idée du populaire. Hein, c'était ça qui me guidait à chaque fois dans les choix que je faisais, dans mes lectures, etc. Et là, effectivement, la Révolution, ce qui m'est apparu tout à fait central, c'est la question de la citoyenneté. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve ce que je disais, c'est-à-dire ce clivage entre les dominants et les dominés dans les interprétations qui sont données de la citoyenneté. En gros, à partir de 1789, vous avez deux conceptions de la citoyenneté. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on est toujours aujourd'hui, c'est du présent. Ça a été le mouvement des Gilets jaunes à réactiver cette question-là. Je précise que mon livre est sorti au mois de septembre, avant donc ce mouvement, mais évidemment, donc ça lui a donné une actualité parce que qu'est-ce qui se passe sous la Révolution française ? Eh bien, on a donc les élites hein, du tiers-État, la plupart d'entre eux étaient avocats, bon, qui parlent bien, tout ça, qui ont une compétence et tout, et qui disent « c'est nous qui allons maintenant gérer la France ». Hein, on n'a plus besoin des nobles, on n'a plus besoin du roi, mais nous, on va gérer, parce qu'on a la compétence. Donc vous, le peuple, vous mettez un bulletin, un bout de papier dans l'urne tous les 4 ou 5 ans, et puis faites-nous confiance, on fait le reste. Mais les classes populaires, notamment les sans-culottes, eux, refusent cette dépossession. Donc on a d'emblée, là, un enjeu pour qu'est-ce que la citoyenneté ? Donc c'est ça qui, moi, m'a intéressé, que j'ai exploré comme ça par rapport à la Révolution française, en montrant que finalement, c'était l'apprentissage de la démocratie qu'on avait beaucoup, y compris dans la lecture marxiste, à insister sur la violence, sur la terreur, sur, voyez, etc. Mais c'est pas ça, à mon avis, c'est pas ça le plus important dans ce qui s'est passé sous la Révolution française. C'est justement l'apprentissage et la soif, l'aspiration, y compris, après on le voit, il y a des travaux très intéressants là-dessus, dans les villages, ça a été extrêmement profond, hein, dans les villages, où l'aspiration, oui, à participer, à dire son mot, à gérer aussi les affaires communes, etc., et à refuser de cette dépossession. Et c'est ça qui entraîne un mouvement dans la Révolution française, qui va mener jusque au Comité de salut public, les Jacobins, etc., puis qui est cassé après violemment avec la terreur blanche, avec la répression, pour réinstaller donc le pouvoir des élites sur la citoyenneté, donc cette conception de la démocratie représentative dans laquelle on est complètement aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui naît sous la Révolution et qu'on peut suivre après. Je le suis en 1848, lors de la Révolution de 48. La Commune de Paris, par exemple, c'est extrêmement important. Et puis on voit dans chaque mouvement social
qui ressurgir... Qui a été noyé dans le sang quand même, la Commune de Paris.
À chaque fois. 1848 aussi.
Et hein, qui n'a droit qu'à quelques petits... Même pas des pages, d'ailleurs, hein, des petits paragraphes dans les manuels d'histoire.
Eh ben oui, c'est d'ailleurs, ça va être, vous savez, on va fêter le centenaire bientôt, donc ça va être l'occasion peut-être de rappeler l'importance de cette période de notre histoire.
Je vous propose d'écouter la voix de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu dont vous vous revendiquez à l'intérieur de vos travaux, Gérard Noiriel. Il va s'exprimer à propos de son ouvrage, qui d'ailleurs n'a pas pris une ride aujourd'hui, La misère du monde. C'est une archive INA du 24 février 1993.
Il y a la grande misère sur laquelle on attire parfois l'attention, en particulier à la télévision, et puis il y a la misère relative. Enfin, nous avons voulu essayer de saisir à la fois les formes extrêmes de la misère et les formes les plus communes, celles qui sont... visible autour de nous. Il y en a dans cette maison, il y en a dans les universités, il y en a dans les lycées. Et cette petite misère que l'on ignore est extrêmement importante parce que elle fait souvent écran à la grande misère. Les gens qui aujourd'hui parlent du monde social, les journalistes, les intellectuels, etc., sont souvent eux-mêmes en état de souffrance, et cette souffrance fait écran à la vision réelle du monde. Donc il s'agissait pour nous de laisser faire, d'aider à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois extrêmement soumis, abandonné en quelque sorte à la parole de celui qu'on écoute, et en même temps sans cesse en alerte pour assister en quelque sorte la personne qui s'exprime dans son travail d'expression.
Nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu. Constitue-t-il à vos yeux aujourd'hui en 2019, Gérard Noiriel, je sais bien que vous n'aimez pas l'expression de maître à penser, mais en tout cas un intellectuel engagé, parce que je rappelle que vous avez fait des travaux fondamentaux sur l'histoire de l'immigration en France, mais aussi des travaux passionnants sur la responsabilité des intellectuels.
Oui, ben disons que j'ai dans le début de ma carrière, j'ai travaillé moi-même un peu avec Pierre Bourdieu, donc ça a été effectivement quelqu'un qui a énormément compté dans ma formation intellectuelle. Surtout, moi j'étais au début de ma carrière, j'étais enseignant à Longwy lors des grandes grèves de la sidérurgie, et ce qui m'avait frappé, c'est justement, vous voyez, là encore, c'est très problème d'actualité, puisque ce qui m'avait frappé, c'était le décalage entre l'expression de ceux d'en bas et la manière dont les représentants en parlaient. C'était frappant, hein. Et donc, c'était la question de la représentation. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé à Pierre Bourdieu, parce qu'il analysait le rôle des porte-paroles. Qui parle à la place des autres? Comment peut-on être légitimé pour parler à la place des autres? Et donc, c'était la question, finalement, des intellectuels qui était posée. C'était une question qui nous concernait aussi, nous, en tant qu'universitaires. Donc ça, ça a été quelque chose pour moi de très important. Et je me suis, effectivement, positionné, je dirais, dans cette perspective que on appelle, enfin c'est plutôt une expression de Michel Foucault, mais les intellectuels spécifiques. Que pour moi, Bourdieu était l'un des principaux représentants, c'est-à-dire des gens qui n'interviennent dans l'espace public que sur la base de ce qu'ils ont eux-mêmes étudié, et pas pour parler de tout. Parce qu'on n'a aucune légitimité autrement à intervenir pour parler de tout. Pourquoi nous plutôt que n'importe quel citoyen? Mais pour les questions sur lesquelles on a travaillé, là on a une légitimité qui est notre travail, comme c'est une compétence, comme tout citoyen une compétence dans son domaine. Donc ça, pour moi, c'est un point fondamental que j'ai que je dois notamment à Pierre Bourdieu, et qu'il explique, exprimait finalement aussi dans cet extrait-là, où il y a une autre chose très importante, c'est justement le rapport, je dirais, aux témoins, enfin, pour moi, en l'occurrence, aux archives, le respect qu'on doit avoir par rapport à la parole qui est exprimée. Voilà, c'est toutes ces questions-là, oui, pour moi, ça a été extrêmement important de connaître, de lire les travaux de Pierre Bourdieu.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Gérard Noiriel. Pour notre plus grand bonheur, c'est Johnny.
« Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère crie plus belle. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles, avec Claude hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y'avait de la gaieté, lorsque ma mère s'est raillinée. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Allez, ouais. J'ai mon papa qui me dit toujours vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles t'adorer, oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles, laisse-toi aimer des filles.
Vous saviez, et vous savez peut-être toujours, Gérard Noiriel dansait le twist en écoutant Johnny, en descendant jusqu'en bas, en avant et en arrière.
Vous savez que j'anime aussi une association d'éducation populaire, j'ai fondée il y a 10 ans, qui s'appelle DAJA. Et pour le 50e anniversaire de mai 68, on a fait, avec la comédienne qui m'accompagne, ce qu'on appelle une conférence gesticulée.
Ah bon, c'est quoi ? On danse au lieu de parler ou on parle en dansant ?
Voilà, c'est un genre de d'intervention où on mélange en gros des propos qui sont sérieux, etc., mais aussi des formes ludiques. Et on tourne beaucoup d'ailleurs dans les écoles, hein, dans les lycées, etc. Et là, justement, c'était un petit peu, je racontais un peu mon mai 68.
Dont vous parlez à l'intérieur de ce nouveau livre.
Voilà, j'en parle un petit peu dans ce livre. Et à un moment donné, effectivement, on passe un extrait de cette chanson et je danse le twist, ce qui amuse beaucoup les gens de voir quelqu'un de mon âge danser le twist. Enfin, ça dure pas longtemps quand même pour éviter les problèmes physiques. Mais effectivement, parce que pour moi, pourquoi c'est intéressant ? On pourrait faire d'ailleurs le lien avec Pierre Bourdieu, parce que Bourdieu a pas mal parlé de ça. C'est la question du corps, le rapport au corps. Hein. Bourdieu disait que l'ordre social est inscrit dans le corps. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là. Quand je réfléchis comme ça rétrospectivement, le premier moment dans mon émancipation par rapport à l'ordre, par rapport au pouvoir qui était dans notre famille, surtout le pouvoir paternel, eh bien, je le relis à cette chanson de Johnny Hallyday. Parce que cette chanson, ça a été le premier passage à la télé de Johnny Hallyday, ça devait être en 1960, c'était avec Lynn Renault qui l'avait présenté, et je me souviens qu'on était nous tous devant notre télé, et que mon père, l'autorité parentale, donc avait dit, celui-là, dans 6 mois, plus personne n'en entendra parler. Et nous, on n'osait rien dire, mais au fond de nous-mêmes, on espérait qu'il s'imposerait, parce que on s'identifiait, on n'avait pas le langage, vous voyez, mais on s'identifiait à quelqu'un qui rompait avec la logique, vous voyez, classique. Parce que l'ordre pour nous, la musique de nos parents, c'était l'accordéon, et Tino Rossi, vous voyez, des figés. Alors que lui, la guitare et la gestuelle, c'était une rupture. Et d'ailleurs, après, quand j'ai écrit notamment sur le clown chocolat, je me suis beaucoup intéressé à la gestuelle. Parce que la gestuelle, justement, ça peut introduire des formes symboliques de rupture avec l'ordre établi avant même le passage aux langues. voyage. Et pour moi, ça a été très important. C'est pour ça que, voilà, je pense que pour beaucoup de gens, s'il y a eu cet hommage, bon, il y avait un côté médiatique aussi, mais pour Johnny Hallyday, quand il est mort, c'est que pour beaucoup de gens, ça a contribué justement à une sorte d'émancipation de la jeunesse, y compris dans les classes populaires qui n'avaient pas les références culturelles qu'on pouvait avoir dans les milieux bourgeois, mais qui étaient engagées aussi dans un processus de séparation par rapport à la génération précédente.
Vous êtes beaucoup intéressé, et ce depuis des décennies, Gérard Noiriel, sur les problèmes d'identité. Vous avez même écrit des livres sur ce qu'on a nommé l'identité nationale. Vous avez aussi mis en perspective notre histoire et notre récit national de la France à partir justement de ce creuset qu'est l'immigration. Et vous avez un chapitre où vous nous expliquez que nous ne sommes pas les descendants des Gaulois et que la France a toujours été un pays d'immigration, et ce depuis l'époque de la construction de l'État.
Tout à fait, oui. Pour moi, les migrations, c'est une dimension fondamentale de l'histoire populaire de la France. C'est-à-dire, quand on reprend l'histoire, aussi longtemps qu'on puisse remonter, on trouve ce processus des migrations. Alors, beaucoup, d'ailleurs, on n'a même pas de source, parce que souvent, les migrants, les gens se mêlent de vent, comme on dit, ne laissent pas forcément de traces. Mais notre histoire est faite de toutes ces multiples migrations. Ce qui change, c'est les formes de migration. Ce que je montre aussi dans mon livre, c'est que c'est seulement à la fin du 19e siècle que l'immigration, c'est-à-dire le déplacement d'individus franchissant une frontière nationale, se constitue. Vous savez que jusqu'à la fin du Second Empire, il existait des passeports intérieurs. Quand vous vouliez vous déplacer de Lille à Marseille, il fallait un passeport. Donc la citoyenneté telle que la Troisième République l'a mise en place, ça a été la suppression des passeports intérieurs, mais une colossale barrière mise entre les nationaux et les étrangers, et les colonisés encore plus. Donc c'est ce processus-là que je retrace en montrant que effectivement donc notre histoire est faite comme ça d'une multitude de migrations dont nous sommes les héritiers, et que ça renvoie, enfin je vais dire, dans les oubliettes de l'histoire, tous ces récits sur nos ancêtres les Gaulois. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même les historiens sérieux, il n'y en a aucun qui peut reprendre ça. C'est des arguments idéologiques que certains développent pour des raisons politiques, mais pas...
Oui, mais le spectre de la migration continue à hanter furieusement... pas seulement l'imaginaire, mais les discours des politiques.
Oui, alors je montre.
Il est réagité très
fréquemment, mais ça, je montre le côté incroyablement répétitif de ces discours-là. Depuis la fin du 19e siècle, les thématiques sur qui ne s'intègrent pas, sur la violence, même sur le terrorisme, puisque, bon, vous savez qu'il y a un anarchiste italien qui a assassiné le président de la République française en 1894. Ça a suscité aussi, par rapport aux Italiens, des formes de rejet extrêmement fort. Donc c'est incroyablement répétitif, et c'est ça qui est terrible, parce que malgré tout ce qu'on peut apporter comme connaissance, moi ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces questions-là. Bon, quand j'ai commencé tout jeune et tout naïf, je pensais qu'il suffisait que comme personne n'avait vraiment travaillé sur l'histoire de l'immigration, bien qu'une fois qu'on aurait apporté les preuves, voilà, de sur toutes ces questions-là, que ça ferait reculer l'intolérance et les préjugés, mais pas du tout. On voit qu'aujourd'hui, on est encore dans une société où ces questions-là prennent une grande importance sur le plan politique, parce que voilà, il y a au fond de l'être humain, enfin, toujours ce vieux clivage eux et nous. Et que le nous, il est constitué sur une base nationale, l'identité nationale. Et donc, ça fonctionne toujours dans certains milieux pour attiser les peurs et les rejets.
En mai 2007, vous avez démissionné du Conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration pour protester contre la création, le même jour, c'était le 18 mai, du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, confié par Nicolas Sarkozy à Brice Hortefeux. Aujourd'hui, l'immigration continue à revenir dans le débat public, et ce, de manière constante, et vous intéressez aussi à la manière dont les immigrés, les différentes couches d'immigration en France ont été d'abord marginalisés, ensuite très progressivement, et là je pense à la première immigration, celle des Italiens, progressivement et très difficilement acceptée, puis ensuite D'autres couches d'immigration sont venues, mais cela s'est toujours accompagné d'un déni d'existence et de la dignité d'êtres humains. Pourquoi ?
Oui, c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai choisi Rachida, parce que sa façon de Douce France, qui est ironique, mais en même temps, c'est ça pour moi le populaire au fond. C'est une appropriation critique des normes, vous voyez. Et là, on le voit bien, et c'est pour ça que l'immigration joue un rôle majeur, c'est-à-dire que ça a été extrêmement conflictuel, et c'est ce que j'ai montré dans le passé, que ce soit pour les Italiens, les Polonais, les Espagnols, etc. À toutes les époques, on a des discours de rejet, d'humiliation, d'infériorité, constante, qui pour moi c'est aussi une dimension populaire, parce que faut pas oublier que immigrer ça veut dire aussi appartenir aux couches les plus défavorisées de la population, hein. Donc c'est ça aussi la dimension. On rejette aussi, vous voyez, il y a un mépris de classe aussi qui s'exprime à travers de ce rejet des immigrants. Et donc contrairement à ce qu'on entend parfois, parce que maintenant c'est le discours, ah bah oui, mais autrefois ils étaient italiens, belges, donc c'est de la proximité, c'est pas vrai. Le nombre d'Italiens qui ont été tués, moi j'ai écrit un livre sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893, c'est le plus grand massacre d'immigrés de l'histoire de France, perpétré par une population, parce qu'autrement, bon, il y a le 17 octobre 61, etc., mais là c'était la police, mais là à Aigues-Mortes, c'est la population française qui s'en prend à ces Italiens, voilà, pour des raisons de concurrence sur le marché du travail, etc. Donc c'est un processus toujours très douloureux, mais effectivement avec le temps, voilà, il y a une évolution qui se fait. Faut bien voir aussi que la majorité, même chez les Italiens, ne sont pas restés en France, hein. Quand on dit ils se sont intégrés, attention, c'est la minorité, la majorité est partie ailleurs, etc., ou est rentrée au pays et tout. Mais après, voilà, il y a un processus qui se fait et on oublie que ce qui s'est produit et on reporte le rejet sur les derniers venus qui servent de bouc émissaire avec, bon, des arguments extrêmement répétitifs au cours du temps. Hein.
Dans cette émission, Gérard Noiriel, nous demandons à une personne qui connaît le travail de l'invité de lui poser des questions et de mettre ce travail en perspective. Nous avons souhaité demander à une jeune femme que nous aimons beaucoup parce qu'elle écrit des travaux très acides sur notre présent, Ludivine Bantigny. Elle est historienne et maîtresse de conférences à l'Université de Rouen. Elle est auteure de deux ouvrages, l'un publié au Seuil l'année dernière intitulé « 1968, deux grands soirs en petit matin ». Et il y a seulement 15 jours, elle a publié un livre intitulé « L'œuvre du temps, histoire, mémoire et engagement ». Écoutez ce qu'elle dit de vous.
Alors, je pense que dans toute son œuvre, en fait, on peut distinguer une véritable cohérence d'existence. Parce que ce qui est frappant, c'est que sa vie, son travail, sa recherche, son enseignement et son engagement sont tout un, en quelque sorte, sont vraiment liés. Et c'est finalement assez rare dans les sciences sociales. En fait, ce que Gérard Noiriel a toujours défendu, hein, depuis les années 1980, c'est que une des fonctions des sciences sociales, c'est de donner une visibilité aux souffrances sociales. Souffrances sociales qui sont justement trop souvent rendues invisibles. Alors ça ne veut pas dire du tout de sa part qu'il s'agirait de voir dans ces personnes qui souffrent du monde social tel qu'il existe en faire des sujets passifs. Hein, ce ne sont pas des sujets passifs hein, sous sa plume dans toutes ses œuvres. Ce ne sont jamais uniquement des proies ou des souffres-douleurs du système. Ce sont aussi des personnes évidemment agissantes et qui font l'histoire, hein, qui ne se contente pas de la subir. Ce qui est aussi tout à fait frappant et remarquable dans son travail, c'est ce qu'il considère comme une éthique de la discussion. C'est-à-dire qu'il s'est fixé une règle, un principe déontologique, à savoir exprimer son point de vue, exprimer ses critiques. Et c'est là aussi assez rare pour le souligner, parce que comme historien, il va puiser à ce titre à des philosophies de l'éthique, comme Habermas par exemple, ou Rorty, sur la question de la déontologie du débat. Et ça veut dire aussi qu'il ne croit pas véritablement en la neutralité des sciences sociales, même si cet engagement dans l'espace public n'empêche pas de bien faire son métier avec toutes les règles de la méthode qu'il s'agit de respecter. Mais il a toujours défendu aussi bien l'autonomie de la recherche par rapport aux pressions, notamment du marché, mais aussi la nécessité de transmettre les résultats de cette recherche par d'autres voies que des livres ou des articles académiques. Alors, il peut s'agir de documentaires, d'expositions, de spectacles vivants. Et tout ça renvoie le travail et l'engagement de Gérard Noiriel à toute une tradition qui m'est chère, c'est celle d'Howard Zinn, historien états-unien qui a travaillé sur l'histoire populaire des États-Unis et qui nous a toujours invités à aiguiser notre perception justement du monde social, des rapports de domination et de celles et ceux qui les subissent, mais jamais uniquement en tant que victimes. Et puis l'idée de se saisir aussi dans le passé de ce qui donne à espérer. C'est-à-dire que c'est pas non plus une histoire pessimiste, c'est pas uniquement l'histoire des vaincus, mais c'est aussi l'histoire des espoirs et des projets que nous permet de tracer Gérard Noiriel. Alors en m'adressant à vous, Gérard Noiriel, j'ai envie de vous poser la question du rapport à l'adversité. Et je voudrais savoir comment vous vivez à titre personnel, comme historien et comme acteur engagé de l'espace public, comment vous vivez cette adversité ?
Alors l'adversité, vous y avez été confronté depuis votre haute enfance, Gérard Noiriel, mais
oui,
vous avez résisté.
Oui. Oui, oui, oui.
Et
c'est
par
ça.
L'espoir, elle a raison, Ludivine Bentini.
Tout à fait, oui, tout à fait. Mais
votre
c'est vrai
vision
que...
de l'histoire est porteuse d'espoir.
Voilà. C'est vrai que une des choses que je n'aime pas, c'est les personnes qui se mettent dans des situations de victime par le fait. Parce que, voilà, il faut de l'adversité pour progresser. C'est la dialectique, finalement. Hein, et donc, je pense que les gens qui ont été confrontés à de l'adversité ont plus de force, finalement, quand, évidemment, cette adversité-là ne les écrase pas complètement, hein. Mais voilà, on plus de force et aussi on une énergie et garde finalement de l'espérance, enfin une vision de la vie qui est positive. Donc c'est effectivement pour moi quelque chose d'important. Et je dirais, par les temps qui courent, Dieu merci, on ne manque pas d'adversité, hein.
Alors. Vous avez terminé la rédaction de ce livre en mai 2018, c'est-à-dire au moment du premier bilan de la politique menée par Emmanuel Macron. Et vous analysez, à la fin de ce livre, en guise de conclusion, que l'arrivée d'Emmanuel Macron et sa victoire, comme le succès écrasant des candidats de son parti aux législatives qui ont suivi, ont été présentés comme un tournant majeur dans la vie politique de notre pays. Aujourd'hui, cet événement, et c'est le moment peut-être de le mettre en perspective, Gérard Noiriel, ce moment que nous avons tous vécu comme étant un moment d'une nouvelle page de notre histoire, d'une nouvelle manière de faire l'histoire au présent, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'Emmanuel Macron a fait acte de rupture par rapport au récit national de la France, ou qu'au contraire, il s'inscrit dans une histoire extrêmement longue?
Ben disons que justement, comme j'écrivais ce livre, enfin la fin de la rédaction du livre, c'est au moment des élections, je me suis dit que ça pouvait être une bonne conclusion, mais je ne voulais pas sortir justement de mon rôle d'historien, c'est-à-dire que c'était pas à moi de me prononcer sur le programme, etc. Mais j'ai lu le programme de Emmanuel Macron, donc qui s'appelle Révolution, son programme présidentiel, en me disant « voyons comment il traite l'histoire ». Et je me suis rendu compte que l'histoire avait une grande importance dans son programme, mais que sa vision de l'histoire, comparée à ce que je venais moi de raconter pendant 800 pages, eh bien le contraste était flagrant, puisque dans sa vision de l'histoire, les classes populaires n'existent pas. C'est flagrant. Je veux dire, objectivement, c'est ce que je fais, je le montre. Donc, pour lui, sa vision de l'histoire, c'est uniquement une vision où ce sont les élites qui font l'histoire. Et d'ailleurs, même dans son panthéon des grands hommes, à suite desquels il voudrait se situer, eh bien, il n'y a ni Jaurès, ni Léon Blum, enfin, toutes ces références quand même du mouvement ouvrier sont absentes. Donc, je concluais, donc c'était bien avant, hein, je le dis, les mouvements des Gilets jaunes, mais à une sorte de cécité qui n'était pas mal intentionnée. C'est pas, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est, je veux pas polémiquer, mais c'est quand même un handicap pour quelqu'un qui veut exercer la fonction de président de la République du peuple français. Puisqu'on ne peut pas, c'est une manière d'oublier tout ce qu'on apportait. Parce que dans sa vision, le peuple, les classes populaires, c'était toujours un problème. C'est les pauvres, les obèses, les malheureux, les... Oui, la seule fois, mais vérifiez ce que je dis, hein, dans son programme où il utilise le mot ouvrier, c'est pour parler des ouvriers obèses. Je veux dire, c'est quand même incroyablement frappant, quoi. Donc, d'ailleurs, je lui ai envoyé, hein, quand mon livre est sorti, papier, je lui ai envoyé. C'était au moment où il commençait à baisser les sondages, en disant, en espérant que ça pourra vous être utile. Et il m'a gentiment répondu d'ailleurs, en me disant qu'il allait le lire avec grande attention et qu'il était sûr qu'il en tirerait profit. C'était juste avant le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je veux dire, vous voyez. C'est vrai que, en tant qu'historien, on n'est pas expert, on ne peut pas prédire l'avenir, etc. Mais on a une certaine satisfaction quand même de voir que toutes ces années de travail peuvent aboutir à des conclusions qui ne sont pas dénuées de pertinence pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi, si vous voulez. Donc là, effectivement, moi, je suis de ceux qui pensent que il y a une fonction civique de l'histoire et que l'histoire peut nous aider à nous situer dans le présent.
Votre livre est plein d'enseignements, plein de questionnements. Vous rappelez des choses évidentes, mais je crois qu'il faut les répéter pour mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et notamment, vous insistez sur cette période que nous vivons depuis maintenant de nombreuses décennies, à savoir que nous sommes un pays sans guerre. Et le fait de ne pas avoir de guerre est un des vecteurs les plus importants pour comprendre notre présent, selon vous. Comment vous définiriez le peuple aujourd'hui, qui en fait partie et qui n'a pas le droit d'en faire partie ?
Alors, c'est une vaste question parce que ce que je montre, c'est qu'il n'y a jamais eu de définition objective du peuple. C'est toujours un enjeu de lutte. C'est-à-dire, la vraie question, c'est qui parle au nom du peuple. À toutes les époques, même dans les grandes révolutions, on a toujours ces enjeux. Même quand les sans-culottes parlent au nom du peuple, ils parlent des artisans urbains, etc. Mais les paysans, ils ne les voient pas. Et donc, sous le Front populaire, c'est les ouvriers, etc. Enfin, c'est toujours un enjeu. Donc aujourd'hui, c'est ça. Ce sont aussi des affrontements sur la bonne définition du peuple. Mais ce que je montre aussi dans le livre, c'est qu'il y a des époques, quand je parle de Vichy, par exemple, hein, c'est effectivement le peuple indésirable. Là, on a une stratégie politique. Les heures les plus sombres de notre histoire visent à exclure, mais je dirais non seulement dans le langage, mais dans les institutions, etc., toute une partie du peuple de France. Et voilà, dans les périodes les plus noires de notre histoire, c'est ce qui s'est produit. Donc, la question de la violence, effectivement, elle se pose. Je suis heureux que vous me posiez cette question parce que c'est un point qui je débat peu souvent de ça. Pourtant, ça me paraît très important. C'est le fait, effectivement, que nous vivions dans une société sans guerre. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, c'est la première génération qui n'a jamais connu la guerre depuis, même avant Jeanne d'Arc. On peut regarder, il n'y avait jamais eu 60 ans sans guerre, sans révolution, etc. Donc ça a des conséquences majeures pour moi. Je veux dire que ça entraîne une nouvelle définition de ce que c'est que la violence. Même quand, par exemple, François Hollande disait « nous sommes en guerre à propos du terrorisme », on voyait bien qu'il y avait une évolution du mot « guerre », parce que jamais on aurait des événements terroristes, il y en avait eu avant, jamais les acteurs politiques des périodes précédentes n'auraient dit guerre pour parler du terrorisme. Il y a donc une évolution et je pense que ça a introduit une sorte de recul de la tolérance par rapport à la violence. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important. Il y a une recomposition des formes de la violence. On le voit bien avec les mouvements des Gilets jaunes, avec d'un côté les violences policières qui sont quand même assez stupéfiantes, je dirais, vu le nombre de personnes qui peuvent être incriminées, mais il n'y a pas de mort. Enfin, je veux dire, vous voyez, par rapport aux répressions dans le passé, on voit qu'il y a quand même une maîtrise de la part des forces de l'ordre, mais que ça se traduit quand même par des blessures, des gens qui sont handicapés, etc. Donc il y a une nouvelle gestion de la violence. Et je crois que c'est un point important sur lequel il faudrait réfléchir et que l'histoire peut éclairer aussi cette question-là parce qu'elle nous donne du recul par rapport aux modifications sur lesquelles qu'on voit aujourd'hui, quoi.
Qui fait l'histoire aujourd'hui ?
Qui fait l'histoire ? Alors, je crois que c'est les peuples qui font l'histoire, hein, et je pense c'est pour ça que les mouvements. Et ce qui est intéressant, c'est que je le montre aussi dans le livre que toutes les grandes luttes sociales de l'histoire de France prennent toujours les élites par surprise. Hein, il y a toujours ce phénomène qui est très réjouissant. Ça, c'est un motif. Ludivine Montigny en parlait tout à l'heure. C'est un motif de d'optimisme, ça, puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, dans les périodes, vous savez qu'un peu avant mai 68, voilà, le Pierre Vincent Ponté avait dit la France sans limite, etc. Bon, et on le retrouve en 1848, on le retrouve en réveil de la Commune de Paris, etc. Et donc, il y a ce motif d'espoir en disant, oui, les peuples font encore l'histoire, même aujourd'hui, en 2019.
Merci beaucoup Gérard Noiriel et merci infiniment pour ce livre réjouissant, une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours, publié aux éditions Agone. On va écouter Angèle.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier, pour y croire. Faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux.
Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Et voilà, c'était Angèle. Merci à Stéphane Boja qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et Antoine Joubert qui m'ont aidé à préparer cette émission, et à Lilian Alaume qui l'a réalisée.